5 et 6 juillet à Saint-Enimy,
le festival Bulle de Burle revient.
Organisé par l'association Enimy BD,
plus de 30 auteurs et autrices seront présents pour des séances de dédicaces.
À cette occasion, Radio Bartas prend le direct tout au long du week-end.
Pour des plateaux et des rencontres autour du micro.
La 18e édition du festival Bulle de Burle,
c'est bien sur le 107 FM.
Et sur radiobartas.net.
Et oui, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Radio Bartas. Si vous nous rejoignez, on a décroché toute la journée, on est au festival Bulle de Burle. Ça y est, ça a ouvert ses portes, ça cartonne déjà depuis 9h30 ce matin, mais pas que, puisque évidemment hier il y avait la soirée d'ouverture. Pour en parler, pour parler de tout ça et de tout ce qui va se passer tout au long du week-end, nous sommes bien évidemment avec Philippe, bonjour.
Bonjour.
Heidi, bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Laurent, bonjour.
Bonjour.
Jean-Laurent, président du jury, hein, qui va remettre les prix ce soir à la place d'hier soir. Tu nous avais annoncé, Philippe,
ouais,
que ça devait être... voilà, on s'adapte.
On parlera de la soirée d'hier soir, elle était tellement dense et sereine à la fois. On s'est donné les moyens de décaler la remise des prix ce soir.
Alors, bah, parlons de la soirée d'hier soir. C'était une première et ça a été un carton au couvent de Quézac.
Tout à fait. Je crois que le choix était bon. Le choix du lieu, d'abord. C'est un lieu magique.
Hein. C'est sûr.
Ces endroits-là sont en général des endroits privilégiés qui n'ont pas été choisis par hasard. Les ombrages étaient somptueux, les lumières étaient discrètes mais efficaces. Et puis la patronne nous a servi un buffet comme rarement on a la chance d'en avoir. Avec des produits du terroir, avec des produits locaux, finement travaillés, des produits frais, c'était génial. Les gens ont pris vraiment une soirée de sérénité, ça a duré plus de 3-4 heures, mais surtout ce qui était sympa, c'est que l'ouverture qu'on avait tentée vers le public local, à travers le spectacle X-Pyramidia,
yes,
a parfaitement fonctionné, puisqu'il a fallu en fait faire deux séances du même spectacle. Les acteurs ont accepté de jouer deux fois. Et en conséquence de quoi, donc la première séance a été essentiellement pour les gens du coin, puisque les auteurs venaient, eux, de finir leur balade en canoë et se regrouper progressivement. Mmh. Voilà une première impression, mais on pourra en dire un peu plus.
Heidi, je suis arrivée ce matin, t'es déjà sur les rotules, là.
Oui, ça a été déjà sportif hier d'accueillir tout le monde, mais on est ravis d'être là avec le grand smile. Toute l'équipe d'Enimy BD est à fond. Ça va être vraiment un week-end exceptionnel et on a trop hâte de rencontrer au fur et à mesure les personnes. Et c'est déjà le cas dès ce matin, très tôt. Il y a les habitués qui étaient là avec leurs chaises, leurs petites valises remplies de BD. C'est vraiment incroyable pour le coin.
Ouais, c'est la première fois que je venais un samedi matin aussitôt et j'ai halluciné sur la queue. Je me suis dit, ah ben d'accord, ok, bon, ben, j'ai bien compris ce qui se passait. En tout cas, c'est cool, tout se passe bien. Bon. Philippe, on est d'accord, il faut quand même pallier à certains imprévus. 18e édition, vous avez l'expérience et vous avez réussi à pallier aux quelques,
oui,
absences.
Dans la mesure où on s'offre un plateau de 30 à 35 auteurs, inévitablement, statistiquement, j'allais presque dire, en termes de probabilité, on a toujours 1, 2, 3 absences, ça nous arrive. Cette année, on en a 3. Voilà, bon, ça tombe sur des auteurs un peu majeurs, que les aficionados qui attendaient depuis 5 heures du matin n'ont pas pu voir, donc avec un peu de dépit. Mais néanmoins, le reste du plateau reste assez remarquable. Et donc, en conséquence de quoi, tout le monde est déjà aux dédicaces depuis donc ce début de matinée. Mmh. Les sourires sont là, je crois que Heidi le disait. Et puis surtout, ce qui reste, c'est ce petit vent là de sérénité qu'on a là sous la tonnelle, nous, mais qui, dans la salle, est agréable parce qu'en fait, on a décomposé encore avec un espace supplémentaire cette année, l'espace découverte, qui bénéficie de la plus belle salle, la salle du conseil. Et cet étirement du festival petit à petit, année après année, donne à chaque espace de la place, de l'aisance, de la capacité à échanger entre auteurs et puis de la capacité à prendre du temps avec les visiteurs. Mmh. Et ça, c'est l'essentiel.
On va parler un peu du programme, de comment ça va se dérouler un peu tout au long de la journée, de la journée de demain, évidemment. Les ateliers cartonnent déjà.
Heidi.
Oui, là, on a démarré sur les chapeaux de roue, comme on dit. Donc, on aura 3 ateliers à 11h et à 15h, samedi et dimanche. Là, ça a commencé par, du coup, l'atelier origami avec la création de toupies avec du papier de bande dessinée. Et oui, on recycle aussi. Voilà, ça donne un nouvel œil sur la bande dessinée d'une autre façon aussi, donc c'est un esprit créatif avec ça. Et on aura aussi effectivement création de bandes dessinées, de dessins accompagnés avec Clara Petitclerc et Nia Cloud sur l'espace découverte. Et ensuite, avec Ferid Ziryu, on a un atelier manga, à l'espace manga. Donc, trop chouette, quoi. Allez-y, foncez.
Alors, allez-y, mais attention, parce que là, l'atelier de 11h est plein, dans les trois cas. Donc, c'est pas la peine d'aller perturber, même si bon, nos animateurs, nos intervenants sont souples et acceptent parfois en cours de route. On a oublié de parler de Marie, hein, qui anime l'atelier Origami, qui est une proche, puisqu'elle habite Montbrun, et qui donc s'est jointe à l'équipe cette année, parce qu'elle avait envie aussi de faire partager ce savoir-faire particulier qu'elle possède tout à fait correctement.
Un mot sur le spectacle qui a eu lieu à 10h, on dira un mot sur le spectacle qui aura lieu demain à 10h, c'était bien ?
Oui, c'était super. C'était en fait une mise en voix avec les deux dames de la médiathèque. Philippe, les prénoms.
Alors, Aman et Nadine, qui étaient en duo, nous ont fait le plaisir cette année de nous accueillir dans leur maison. C'est leur maison, la médiathèque. Elles y sont tous les samedis, elles adorent ça. Et cette année, on leur a dit, mais non seulement vous allez nous accueillir, mais vous allez vous mettre en avant. Et donc, elles ont fait le pari de prendre la place de l'intervenant et de jouer le jeu. Et comme on s'en doutait, ça s'est fort bien passé.
Elles ont commencé par un conte Kamishibai et ensuite une mise en voix de plusieurs histoires pour les petits. Et c'était très, très sympa pour démarrer la journée en douceur.
Alors, l'eau à la bouche, justement, qu'est-ce qui va se passer demain dimanche matin à 10h?
Alors... Je pense
un autre moment un peu pour démarrer la journée soft à la médiathèque avec cette fois-ci c'est Myriam Angelella qui va animer un temps autour des contes, mais là cette fois-ci avec un regard un peu plus conte d'histoire, conte de légende. Donc elle a fait son choix, elle en a choisi plusieurs. Elle s'est dit, je fais ça un peu comme un jeu de cartes dans ma poche. Je verrai en fonction de mon public et du moment si je pars dans cette direction ou dans une autre, si ce sont des fées ou des dragons ou d'autres situations historiques. Et donc Myriam animera ça pendant 40-45 minutes, manière de démarrer la matinée avant que tout le monde aille retrouver les ateliers qui ont lieu à...
15h.
Et 11h.
Et 11h.
On en reparlera un peu tout au long de la journée. N'hésitez pas à venir prendre le micro aussi pour annoncer les événements qui se passeront aujourd'hui et demain. Quel bonheur! Je voudrais qu'on dise quand même un mot sur la quinzaine de bénévoles qui sont là pour l'organisation et le bon déroulement de la journée. Indispensable les bénévoles, Philippe.
Incontournable. Et alors, ce qui est chouette, c'est que hier soir, c'est la Benjamine de l'équipe, en l'occurrence Heidi, qui a présenté l'équipe. Donc ça c'est sympa parce que l'équipe s'étoffe petit à petit, on n'est pas du genre à chercher à grossir trop vite. On était 4-5 il y a 15 ans, on est toujours les 4-5 en question, mais aujourd'hui on est une quinzaine quand il s'agit d'être là le samedi et le dimanche, parce que la librairie il faut du monde, il faut accompagner les gens, parce qu'il faut du monde sur les circulations vers les ateliers, parce qu'il faut du monde à droite à gauche aussi à l'accueil. Et donc cette quinzaine de bénévoles est là, elle est fidèle, ce sont pas toujours des centrimioles, ce sont des passionnés de BD, souvent. Et ils aiment partager ce moment-là. Alors, c'est aussi des moments sympas entre nous, bien sûr, en amont, en aval, mais aussi pendant. Et la soirée d'hier soir a permis aux bénévoles d'être là avec les auteurs, d'en profiter, parce que c'était une belle soirée d'été. Et surtout, de pouvoir finalement trouver une place aussi après le spectacle, puisque le spectacle était, on n'en a pas parlé, mais très particulier. Moi, j'ai, à l'issue de la première séance, je suis allé voir un peu les gens qui sortaient et j'ai entendu un seul mot. Incroyable. Incroyable. Effectivement, les gens sont sortis de là, scotchés. Ils n'imaginaient pas qu'on puisse, avec autant de matériel un peu sophistiqué mais bizarre pour eux, pouvoir raconter une histoire, parce que c'était une belle histoire, pouvoir faire participer les gens qui écoutaient l'histoire et pouvoir en fait les faire réfléchir sur cette espèce de truc dont on parle dans les médias un peu souvent en ce moment qui s'appelle l'IA, l'intelligence artificielle, et leur montrer que bah, chacun a le droit d'avoir son avis, même si les auteurs du spectacle avaient le leur.
Et puis oui, ça dépend aussi de l'utilisation qu'on en fera, et évidemment c'est énergivore aussi, il y a tout un débat. C'est pour ça qu'un spectacle, ça permet aussi d'ouvrir, comme tu dis, chacun se fait son avis. Tu as dit un truc important, on a parlé un peu en antenne, hein, quinzaine de bénévoles, 4 ou 5 depuis 15 ans, parce qu'en fait le festival c'est la 18e édition. Il faut que tu nous racontes un peu quand même cette genèse de ce festoche et qu'on rende un peu hommage aux personnes aussi qui font que cette 18e édition arrive.
C'est pas nous qui avons démarré, c'est une équipe de gens qui étaient passionnés de médiéval, qui animait d'ailleurs le village de Saint-Enémy de façon remarquable avec une compagnie qui s'appelait la compagnie Burlatine, qui spectacles médiévaux, combats d'épées, défilé costumé, etc. C'était génial.
Et la nuit, si mes souvenirs sont bons, il y avait aussi un, il passait dans les
le
rues,
bonne nuit,
le meilleur, voilà. Dormez en paix, braves gens.
Mais je pense qu'il continue à le faire l'été. Hein,
c'est ça, le meilleur de nuit continue, ouais. De façon plus hebdomadaire, mais continue. Yes. Ouais. Et donc cette ambiance médiévale, il y avait bien sûr là aussi une équipe de bénévoles, et dans l'équipe de bénévoles, il y avait des gens qui aimaient la BD. Et donc ils ont dit, mais en plus de tout ce qu'on propose, les spectacles, les combats, les défilés, les danses, etc., on va faire un petit coin BD. Et donc ils ont lancé ce festival de la BD médiévale en 2007. Ils l'ont tenu 3 ans, et puis eux, le médiéval, les passionnés plus peut-être que la BD. Et donc il y a eu un petit creux en 2011, et nous on a repris le flambeau en 2012, avec la superbe affiche de Nicolas Demar, qui aujourd'hui est à l'entrée du village, côté sud, côté Millau. Et ça a été pour nous l'occasion de dire, mais la BD, c'est pas que du médiéval, même si à l'époque l'heroic fantasy était très tendance. Et on a ouvert très rapidement sur l'ensemble des genres. Et on s'est pas trompé, parce qu'en fait, dans les années qui ont suivi, ben, les genres ont été multipliés. Jean-Laurent pourrait nous en parler. Et notamment, on a vu arriver de façon très forte le roman graphique, qui aujourd'hui tient une place conséquente. Le fait que la BD, aujourd'hui, s'alourdit en nombre de planches, de pages, c'est pas neutre non plus. Le fait que la BD jeunesse trouve une réelle place, ce n'est pas neutre non plus. On a, nous, cette année, 7 ou 8 auteurs jeunesse qui sont présents. Donc voilà, on a suivi, finalement, on a accompagné cette évolution. Et aujourd'hui, 15 ans après, on est encore là, pour certains. Alors, juste un petit mot peut-être sur l'équipe. Moi, j'ai souvent tendance à dire, on a l'âme de l'éducation populaire entre nous. Là-dessus, on ne s'est pas trompé. C'est-à-dire que quelque part, on est tous différents, mais on apporte chacun ce qu'on est, tout simplement. Et au fil des ans, je le dis avec un peu d'émotion.
Oui, on sent ça. Ouais.
Qu'on soit ébéniste, instite, travailleur, peu importe, agriculteur, chacun a sa place. Et c'est ça qui fait que quelque part, je crois que l'équipe est restée soudée.
Joli moment et joli mot pour dire que aussi, surtout, la bande dessinée n'a pas de rang social. En fait, elle peut s'adresser à tout le monde et c'est ça qui est beau. On va parler maintenant un peu. Alors, j'aimerais qu'on parle de ces prix hein, qui vont être distribués ce soir. Du coup, ce sera quoi, à 18h la remise des prix?
À partir de... Oui. À partir bonjour, de... À partir voilà. De... Tranquille. On est très prudent, la journée se déroule, on y va calmement.
Jean-Laurent, tu es le président du jury. Oui, avec plaisir.
Oui, j'aimerais rebondir un peu
avec,
sur ce que...
Avec grand plaisir.
D'abord sur les bénévoles, parce que je crois qu'ils sont effectivement incontournables, comme Philippe l'a dit. Et puis, pour avoir été présent lors du premier festival, quand j'étais rédacteur en chef de Midi Livre ici... Le médiéval, c'est bien joli, mais le médiéval, il n'y a pas des albums tous les ans, et donc là où Philippe a bien fait, c'est de reprendre la thématique BD généraliste, et évidemment, c'est celle qui aujourd'hui porte le plus, sauf que tout à l'heure, là, on parlait de pagination, on parlait de romans graphiques, il faut quand même savoir aussi que les paginations sont souvent dues à des forfaits faits aux auteurs pour minimiser les coûts. Mmh. Et deuxièmement, le problème qu'on connaît aujourd'hui, et là je le vois moi avec beaucoup d'auteurs, c'est que les bouquins coûtent de plus en plus cher. C'est-à-dire que la BD qui aujourd'hui, autrefois valait 12€, 13€, ou encore parfois, monte à 25-30€. Mmh. Donc je crains que là aussi, avec la surproduction qu'on vit, qui n'est pas toujours qualitative, on se retrouve un peu confronté à par le manque de pouvoir d'achat qu'on connaît, à un problème au niveau de la BD. Mais ça, c'est... Moi, je reste optimiste, hein, parce qu'il y a des choses fabuleuses. Le roman graphique a perturbé, quand même, a brouillé un peu les cartes. Voilà. Donc, tout le monde fait du roman graphique, et tous les romans graphiques ne sont pas pour autant des chefs-d'œuvre. Hein. Il faut aussi vraiment être prudent là-dessus. Et bon, je suis la BD maintenant depuis plus de 30 ans, la production bande dessinée. Voilà. Donc, je dis que... Un festival comme ça, c'est en plus, a l'avantage, comme le dit Philippe, de promouvoir une BD très familiale, en fait. Je crois que c'est surtout ça qui en plus, valide les choix dont on va parler maintenant des auteurs qui sont aujourd'hui présents ici.
Ouais, pour rebondir, la BD est un secteur qui fonctionne pas trop mal, mais on est en combien, 5 ou 6 000 nouveautés par an?
4 500, 5 000.
Ouais. 5 000, donc c'est
attendez, quand même énorme, manga hein. Compris. Et manga, 55%.
Et manga compris. Ah oui, d'accord.
Attention. Hein.
Donc 2 500 mangas à peu près par an et 2 500
voilà, et le manga, pardon, okay. Qui se vend lui bien, par contre, parce que le prix d'appel est de 6-7 euros et surtout fidélise un lectorat de jeunes, ados ou post-ados, qui veulent que la BD, pouvoir suivre une BD rapidement. Un album aujourd'hui, c'est un an et demi en BD traditionnelle. Mmh. En manga, ça peut être quelques mois.
Mmh. Eh ben, transition tout trouvée pour parler d'abord du prix jeunesse qui va être distribué ce soir. On ne va pas dévoiler les gagnants. Mais par contre, tu parlais de manga. Commençons par chronique d'un mangaka de Farid.
Voilà. Ben alors là, écoute, je pense quand même qu'au niveau du manga, moi, je ne suis pas un grand spécialiste, pour être très, très franc. En manga, moi, je traite surtout tout ce qui est manga historique, parce que les Japonais savent très très bien le faire sur leur propre histoire. Ensuite, c'est le tome 5 hein, de mangaka à mangaka, oui. Et donc là, moi, je l'ai vu apparaître sur la liste, mais j'avoue que je suis...
Alors, Ferid est un fidèle du festival, d'abord, je crois qu'on peut se le dire comme ça. Il a fait lui aussi un choix très particulier, il y a une dizaine d'années de ça, un peu au moment où nous aussi on faisait des choix. Il a fait le choix de se dire que, certes, le manga était un genre qui allait prendre la place et dans lequel il pouvait lui aussi trouver la sienne, mais il est resté sur un style à la française. C'est-à-dire que quelque part, il a gardé le format de la BD, une sorte de A4 un peu élargi. Il a gardé la structure cartonnée de la BD, avec une belle couverture. Il a gardé la dimension colorée de toutes ses planches, ce qui est rarement le cas en manga aujourd'hui. Et il a gardé la lecture du début vers la fin.
Classique, oui, voilà. La franco-belge.
C'est ça. Donc du coup, il a trouvé là sa place, parce qu'en fait, cette place-là, elle était nécessaire pour un public, notamment le public peu initié au manga, et surtout pour les parents. C'était très rassurant pour les parents que les enfants puissent aborder le manga un petit peu dans leur code à eux, de parents, dans le code de la bande dessinée. Donc ça a été son filon, et avec Cazenov qui est scénariste, qui est un très bon scénariste, ils ont donc réussi à prendre une réelle place. Après, deuxième chose aussi assez originale dans son parcours, il a tout simplement décrit son parcours. La chronique d'un mangaka, c'est effectivement son parcours. Mmh. Comment je fais, moi qui ai envie de faire du dessin, de faire de la manga, comment je fais pour trouver ma place ? Et donc, on est à mi-chemin entre le récit biographique, autobiographique, et puis cette aventure que le manga constitue, comme le disait Jean-Laurent aujourd'hui, en termes économiques, puisqu'il occupe plus de la moitié du marché de la BD.
J'en ai lu quelques pages, en plus c'est assez rigolo. Pierre Huong, alors pardonnez-moi, je vais peut-être parfois écorcher un peu les noms.
Pierre Huong, c'est ça. Pierre Huong. Mila et Noé, le mystère du monstre marin. Mais là, on est dans du classique quand même, hein, Philippe Lérard enfantin, c'est-à-dire jeunesse, avec une histoire... qui permet de rêver, de s'évader, comme c'est très souvent le cas en jeunesse aussi. Il faut voir le lectorat, hein. Je regardais tout à l'heure une maman qui achetait avec ses filles ou ses garçons de la bande dessinée. La BD jeunesse se porte aussi très très ouais. bien. On n'a pas idée, mais c'est vrai que elle se porte bien, aussi bien que la BD franco-belge, et parfois même mieux pour certains titres. Ensuite, moi, un titre que j'aime beaucoup, c'est La Brigade des Cauchemars, que je suivais depuis le début, de Drac. Et là, c'est le tome 5. Alors, là aussi, c'est une sorte, si vous voulez, de témoin. On est au tome 5, ça veut dire que ça marche pas, c'est pas mal marché depuis le début, quoi. Exactement, d'ailleurs, comme le mangaka. Les éditeurs sont pas des philanthropes, hein. Vous pouvez signer 3 albums. Vous en faites un, ça ne marche pas très bien, au revoir les deux, le troisième, hein, il n'y a pas d'état d'âme. Donc, et enfin, le dernier, alors là, Philippe en parlera, parce que moi je connaissais bien le tome 13 de Studio Danse, et puis je cherchais désespérément la couverture du tome 14.
De Crip. Hein.
Oui, ouais. Mais sauf que, c'était en fait quelque chose d'à part, c'est Studio dans 3BD, dans 3D, c'est pas vraiment un album traditionnel.
Non, il y a un clin d'œil marketing en fait de la part de l'éditeur, c'est-à-dire qu'en réalité, on offre des lunettes pour regarder en 3D, un dessin qui est en fait un dessin en 2D, mais donc c'était un clin d'œil marketing pour dire que le 14e tome allait avoir une dimension un peu particulière, un peu spectaculaire, pour que le jeune électorat qui est habitué à cette série, Studio Danse, puisque, comme le dit Jean-Laurent, les éditeurs ne sont pas fous. Hein.
Oui, tant ça marche comme ça, il n'y a pas de souci.
Voilà. Miss Tinguette, c'est pareil.
Oui, Miss Tinguette.
Voilà, Anissa, c'est pareil, etc. Oui. Là, tous les auteurs qu'on a là sont des auteurs qui sont aujourd'hui très installés sur le marché jeunesse et qui satisfont parfaitement la demande. Hein. Que ce soit la demande des parents ou la demande des enfants.
Et alors, paradoxalement, auquel, je dirais, sur le plan purement presse ou autre, on ne rend pas assez hommage, parce que, disons, c'est un peu considéré comme le parent pauvre. Mmh. Et c'est dommage, parce qu'en fait, encore une fois, ça touche un électorat varié, qui surtout, grâce à ça, mettra peut-être le pied à l'étrier pour passer à une bande dessinée franco-belge plus tard, quand il sera ado ou autre. Sauf que là, généralement, c'est plutôt le manga. C'est très curieux, les tranches d'âge de lecteurs. Hein. Le vrai. Manga pour le 20 à 25 ans, et après, avec les âges, l'âge aidant, la franco-belge. Hein.
Avant de parler des autres prix, moi j'aimerais comprendre l'importance. Alors, pour les auteurs, on comprend, parce que, enfin, auteur-autrice, on comprend, parce que, bon, recevoir un prix, c'est toujours un peu gratifiant, voilà, mais aussi l'importance pour vous, parce que, pour un festival, parce que je me dis que cette BD, quand elle communique sur elle, c'est aussi communiquer sur un festival, a reçu le prix, là, pour le coup, le prix jeunesse du festival Bulle de Bure, la Saint-Émilion, c'est quand même aussi. Pour vous, une belle promo.
C'est un travail partagé, toujours. Les auteurs ont besoin d'être valorisés, ont besoin d'être mis en évidence à certains moments. Les festivals servent à leur faire rencontrer un public, leur public, mais pas que. Et pour les festivals, c'est important aussi qu'au-delà du temps éphémère que constituent les deux ou trois jours de regroupement, il puisse y avoir une image qui se dilue, qui se répande et qui fasse que Ennemi, Saint-Ennemi, ah ouais, on connaît, mais c'est un festival, ouais. Mmh. Mais on y est allé ou on va y aller. Voilà. Mmh. Je crois qu'on est dans un train qui marche avec plusieurs wagons et c'est important que ces wagons soient bien accrochés les uns aux autres.
Mmh. Le prix du festival, la Bulle de Bure, là c'est pareil, 4 nominés, pardon. Alors, il est absent aujourd'hui, mais commençons par lui, puisqu'il est en haut de la liste, Jacques Terpan.
Ah ben là, c'est un des poids lourds, j'allais dire, de la BD franco-belge réaliste. C'est quelqu'un qui habite chez qui je suis allé, d'ailleurs, qui habite près de Saint-Jean-en-Royans, la Baume-sur-Ostain. Enfin, il est passionné de chevaux, il a plein de chevaux autour de lui. Je ne sais pas si tu y es déjà allé. Et là, Jacques donc devait venir pour en fait présenter ce qu'il reste de nous, qui est sa propre, j'allais dire, autobiographie à travers des petites histoires courtes. C'est lui qui se raconte. Mmh. Et alors, il se raconte d'autant plus que ça sera, d'après ce qu'il a dit, sa dernière bande dessinée.
Ah, il arrête.
Il arrête.
Oh, bé.
Donc, alors là, moi, je reste toujours...
Les éternels adieux.
Des uns et des autres, en tout d'ailleurs, pas qu'en BD, hein, en politique, entre autres.
Bien sûr.
Non, mais il se peut aussi qu'il ait atteint une sorte de plénitude avec les sept cavaliers, avec toutes les reprises qu'il a pu faire, tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Et là, il a voulu, je n'ose dire, donner une sorte de testament, s'ouvrir sur des expériences personnelles, des ressentis personnels, voilà. Et pas du tout prendre un scénario et boum, faire une bande dessinée traditionnelle, voilà. Donc, en espérant que ce ne sera donc pas sa dernière. Alors, ensuite, il y a David Senou, Hugo, construit à ce bleu. Là, je n'ai pas mes temps de 50 ans, parce que il a pris une thématique qui est l'ex-Yougoslavie, l'intervention de l'ONU sur place. J'ai feuilleté l'album, je ne l'ai pas lu en totalité. Mais c'est du réaliste pur et dur, sur un dessin très appuyé quand même, hein, où donc il est avec... Oui, il signe tout, hein, scénario et dessin.
C'est ça, tout à fait.
Voilà. Et ensuite...
Une partie d'ailleurs d'expérience vécue. Je crois que chez Senou, on retrouve dans ses différents ouvrages ses différentes étapes de sa vie. Il a été skinhead, il a été dans le monde très dur de la rue, il en a témoigné ensuite par un ouvrage... Il a été ensuite en Yougoslavie, engagé militaire, donc dans un conflit particulièrement complexe, interethnique. Il en témoigne aussi à travers un ouvrage. C'est quelqu'un qui ne ressort jamais indemne de ces éléments, de ces moments de vie, et qui du coup se sent heureusement libéré par le graphisme et la possibilité de créer et de produire.
Et puis, on termine avec...
Il y en a deux autres encore. Ouais. Dan Verlinden, qui lui a repris le personnage emblématique de Soda, qui est Chi Dupuis, était un Parc d'Azzotti, et Tom, une référence, Soda. C'est le flic dont la maman ne sait pas qu'il est flic et qui s'imagine qu'il est pasteur, pour faire très simple. Mm. C'est pour ça que Soda arrive toujours avec un col de pasteur et est confronté à des histoires toujours sanglantes ou autres. Il a une collaboratrice qu'il aime bien, une adjointe qu'il aime bien. Et là, donc, il a repris en deux tomes, Révélation, tome 1 et tome 2, le personnage de Soda, pour encore une fois, c'est à New York, hein, c'est dur, enfin, c'est vraiment. Et il a très bien repris, je trouve qu'il a. Il est dans la lignée parfaite de Tom et Idazotti pour cette reprise-là. Et enfin, donc, le quatrième, qui n'est pas là, malheureusement, et je le déplore parce que je suis un fanatique de bande dessinée aéronautique, c'est donc Philippe Sébastien, qui, lui, a repris la série Tanguy et la Verdure, que l'on doit au départ à Uderzo, hein, il faut quand même se souvenir. Chez qui j'ai eu la chance
d'être... Les chevaliers du ciel.
Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, il avait été porté aussi avec... en série télévisée à l'époque avec les noms m'échappent totalement maintenant mais je les vois enfin, ah bon sang
le grand blanc
c'était la Verdure et Tanguy
c'était c'est pas Pierre Richard du coup non, un grand blond bon, j'ai essayé un grand blond on pense toujours à lui
mais... non il avait le physique de Jean-Plan peu importe
par contre Al Koutelis avait dessiné aussi. Un moment qui lui on en parlera tout à l'heure puisqu'il a l'intégrale mais je pense qu'il a dessiné
oui on va en parler mais c'est peut-être trop voilà
ah pardon. Non, mais en tout cas,
Al l'avait. Ils ont été plusieurs à reprendre. Ouais, voilà, en fait, Uderzo l'a lâché assez rapidement. Hein. Il y a eu d'autres auteurs qui. C'était trop. Uderzo m'a expliqué que c'était trop compliqué pour lui, en fait, de faire Tanguy et la Verdure et Astérix. Ouais, il ne pouvait pas. Parce que c'était quelqu'un qui avait un dessin tellement travaillé, bon, pour moi, avoir vu les planches authentiques de près, qu'il ne pouvait plus suivre. Donc, de toute façon. Il avait passé la main très rapidement sur Tanguy, parce que la priorité pour lui c'était Astérix. Donc Tanguy
ça, c'est quand même deux grosses machines.
Un petit peu comme Buldani qui a été repris depuis Hubinon, Paris de ses dessinateurs, et toujours à l'heure actuelle, peut changer de main, un moment ou un autre. Quoi. Et puis alors, Tanguy et la Verdure, il faut savoir que c'est décliné en sous-série classique. Voilà, il y a plusieurs dessinateurs sur le coup, quoi, toujours à l'heure actuelle.
Ben voilà pour le prix festival que le meilleur gagne, évidemment. Prix nouveauté, source de Burle. On commence par Serge Deloupi. Oui, c'était la guerre d'Algérie.
Alors, ce n'est pas le premier qui fait d'ailleurs là-dessus, parce qu'il a fait Algérienne. Et Serge Deloupi est un auteur que moi, pour lequel j'ai une grande affection.
Et en plus, petit clin d'œil, puisque je pense qu'aujourd'hui, c'est l'indépendance de l'Algérie.
Oui, c'est le moment où j'ai pris moi l'avion un peu de temps après, un des derniers avions, oui, merci de le souvenir, c'était en juillet 62, effectivement.
Ouais, c'est ça.
J'en ai fait une bande dessinée à l'époque, donc il y a deux ans. Non, c'est vrai, mais il traite très bien le sujet, mais si vous voulez, en fait, il a ouvert le sujet à autre chose que la simple indépendance. C'est-à-dire qu'il y a des années de feu, il a travaillé absolument sur la totalité de ce que représente même l'Algérie aujourd'hui à travers l'immigration, à travers les mariages, à travers beaucoup de choses. Mais pour ça, il est remarquablement doué, je dois dire. C'est un petit peu comme Pascal Crosti qui vient ensuite, qui lui a pris des thématiques mais beaucoup plus sombres, comme Dracula, comme Hitler, et là qui prend la mise en image de Jan Eyre, donc est un voilà. C'est des auteurs qui sont beaucoup plus intello, j'allais dire, quelque part. C'est de la bande dessinée, mais qui apporte aussi un savoir et qui apporte aussi une histoire, mais au sens de la grande histoire. Voilà. Et là, c'est pour ça que Deloupi, entre autres, est vraiment important, je pense. Et ensuite, il y a Olivier Roman, là, qui vient de sortir. Là, je le recommande.
Prague, ouais, Prague. J'avais acheté le premier tome ici l'année dernière. C'est excellent.
Et je pense que là, je lui ai dit, écoute, Olivier, je trouve que d'abord, il a reconçu son dessin. Il est chez Maguen, là, qui est quand même un des plus gros galeristes, si ce n'est le plus gros galeriste parisien et français, qui a désormais sa propre maison d'édition. Et là, avec Rodolphe, si je me souviens, il a sorti quand même quelque chose qui est atypique, avec un côté fantastique, un côté SF, un côté vraiment... et puis toute une philosophie, là aussi, que Rodolphe aime particulièrement, parce que, bon, Rodolphe, c'est avec Léo, des BD qui sortent aussi largement de l'ordinaire. Rodolphe est un scénariste prolifique.
Et Laurent Seurillac, pour compléter cette liste de nominés.
Mais je pense que Philippe peut mieux en parler que moi.
Alors Laurent Seurillac, c'est une belle aventure avec nous. C'est-à-dire que Laurent est ami d'un des membres de l'équipe historique. Laurent est venu en auto-édition chez nous, comme nombre d'autres auteurs qui ont besoin de visibilité. Et il a trouvé sa place parce qu'il était ami donc, avec ce collègue enseignant. Et il était ami sur le fait que ce qu'il fait, Jean-Laurent vient d'y faire référence, est très instructif. C'est quelqu'un qui fouille énormément les sujets sur lesquels il travaille. En l'occurrence, il travaille sur Arles, l'histoire de Arles, l'histoire de la ville romaine que constituait Arles et son pôle dans le sud de la France. Et donc, au fil d'une série qui s'appelle Arelate, il s'est fait une plume. Il s'est fait même une édition, puisqu'il a une édition qui s'appelle Sambule. Et sur lequel il est, je crois, au tome 8, voire un peu plus, et sur lequel il fait maintenant référence. quand quelqu'un veut, sur Arles, avoir une référence historique, on va chercher la série Arlat. Et donc, Laurent est un fidèle du festival. Il a sa place, et il a sa place aussi par cette identité de chercheur en histoire. Il s'associe chaque fois avec des gens qui sont solides dans ce domaine, conservateurs de musées ou archivistes. Et donc, ces productions sont des références qui peuvent nourrir à la fois l'amateur d'histoire, mais aussi le jeune qui veut découvrir cette partie-là un peu intéressante de la Gaule romaine.
Il en reste deux, des prix. Alors,
je pense qu'on peut, par exemple, sans rentrer trop dans le détail, parler d'un autre auteur important qui est ici, c'est Alcoutis, peut-être, on ne sait jamais, hein, les grandes décisions du merveilleux jury que je préside en tant que président. Bon. Et Al, alors pour moi, c'est quand même là du très très solide. J'étais en train de l'interviewer avant que vous m'appeliez. Et pour moi, les deux derniers albums, c'est Deux passantes dans la nuit, une adaptation d'un film qu'aurait dû faire Patrice Lecomte, et qui a été donc adapté en bande dessinée, qu'il a adapté en bande dessinée, qui à mon avis est un très très bon diptyque. Et puis ça a été À des grands rivières, ça a été Le Grec, ça a été toute une série de d'albums qui ont bien marqué. Et puis il était dessinateur chez Fluide. Il faut quand même penser qu'il a derrière lui une expérience avec Mandrika, avec toute la fine fleur de Charlie mensuelle, hein, donc entre autres. Et là, il est là aujourd'hui. Et ça, je pense, c'est une belle rencontre à faire. C'est pour vos auditeurs ou auditrices, bien évidemment, qui viennent éventuellement ou que je... J'engage fortement à venir à Saint-Édimy pour ce week-end. Al, c'est vraiment un bon poids lourd, quelqu'un en plus de très gentil, très sympathique, et qui là... alors, j'ai pas eu le temps, je peux pas vous dire, le prochain, parce que j'ai tout arrêté avant. Tu dis, alors, Al, le prochain album, c'est quoi ? Donc, on va rien dire pour l'instant, mais sachez que bon, Al est là, et que, bien évidemment, il peut être amené à...
Bah écoute, Ily, c'est un parcours.
Oui.
Je crois que c'est ça aussi pour nous. Quand on invite des gens comme Coutelis, c'est parce que quelque part, pour nous, il y a un effet légende. On est ici au pays des légendes, et on a un prix légende d'ailleurs. Et des gens comme Coutelis représentent bien cette dynamique d'une légende. Quelqu'un qui traverse les ans, qui garde une personnalité graphique exceptionnelle, qui est un producteur, mais alors colossal. Il produit de façon démesurée presque. Et qui, comme le disait très justement Jean-Laurent, est d'abord parti du dessin presse.
Et d'abord, est un cycliste, un grand cycliste, mais vrai cycliste pro.
Il a fait une BD d'ailleurs dessus.
Oui, mais
ça m'échappe.
Sur le Tour de France,
oui. Ah. Oui, sur lui, tout à fait.
Vous êtes en plein dans l'actualité puisqu'il part aujourd'hui le Tour.
Ça, oui. Ça fait partie de ces auteurs qui traversent comme ça, au fil des décennies, le monde de la bande dessinée, sans perdre leur identité et sans pour autant traiter toujours le même sujet. Donc, pour nous, c'est des auteurs qui sont essentiels.
Et puis on terminera avec le prix des scolaires, hein, puisque on parlait tout à l'heure de effectivement et vous en faites toute l'année de l'éducation populaire. Vous en aviez parlé sur Radio Bartas. Là, il y aura un prix des scolaires qui sera remis à Ily.
Oui, exactement. En fait, chaque année, on vient sur le milieu scolaire pour sensibiliser les jeunes à la lecture et au dessin. De la bande dessinée et cette année on a été prolifique. on a eu vraiment pas mal d'écoles qui ont voulu avoir un projet scolaire sur la création d'une bande dessinée, un livret que voilà leur famille et autres ont pu avoir dans leurs mains, donc et même faire des dédicaces parce qu'il y a eu aussi les 24 heures BD. Là aujourd'hui on a l'école de Saint-Chély-d'Apcher qui fait aussi des dédicaces sur le festival.
Et ça, c'est quand même la classe.
Et c'est grave la classe. et donc, voilà, on va remettre un prix à une des écoles de cette année pour le prix scolaire, parce que vraiment, faut pas se le dire ou se le dire. C'est un projet vraiment important et qu'on fait tout le long de l'année et qui doit perdurer parce que c'est magnifique de voir des jeunes talents qui dessinent pour les premières fois, assistés par des professionnels de la bande dessinée, Armel Drouin. On a eu aussi
Émilie Van Bolsen.
Exactement.
Méricup.
Voilà, tellement de noms et vraiment à chaque fois les yeux qui s'émerveillent et le papier qui gratte fort. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir, ils sont là pour dédicacer, ce serait chouette de leur faire un petit coucou. C'est trop mignon, quoi.
Et j'espère qu'ils voudront venir à cette antenne, ce serait super.
Et moi, j'oublie pas, justement, puisqu'on parle de venir à cette antenne, les ados. Parce que Heidi signale tout à fait pertinemment le travail qu'on fait avec les scolaires, avec les élèves du premier degré, hein. Donc les petits, on va dire. Mais on est aussi sur un projet à long terme avec la Fondation Orange, le soutien de la Fondation Orange, en relation avec une MEX à Nîmes. Ce sont des adolescents qui ont plus de 15 ans, pour lesquels, quand on arrive, on se dit « mais qu'est-ce qu'on va faire avec eux pendant 3 jours ?» et qui repartent chaque fois avec un ouvrage qu'ils ont réussi à composer, à créer, à écrire, à dessiner, et qu'on édite. Et on est au 3e tome de ce qui s'appelle la Team Paul Rabault, puisque c'est comme ça qu'ils se sont intitulés. Ils sont accompagnés par Alain Petitclerc, qui est un auteur illustrateur de Montpellier, et qui donc les accompagne dans leurs travaux. Et puis ils sont présents sur le festival pour la deuxième ou troisième fois. Et je crois qu'on pourrait même peut-être, si Radio Bartas le veut bien, leur laisser un peu de temps en temps le micro.
Ouais.
Parce que, à mon avis, soit ils ont des choses à dire, soit ils ont des choses à faire dire. Ça pourrait être sympa d'avoir un peu ce double regard.
Et ce serait cool l'idée hein, de les avoir demain matin, qu'ils interviewent un peu les gagnants des différents prix, en fait. Ouais. Ça peut être intéressant si ça les botte. En tout cas, le micro leur est totalement ouvert sans aucun problème. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur l'ouverture de ce festival, le programme. Philippe, un dernier mot, oui.
Un dernier mot, il ne faut pas l'oublier, on est en relation avec le Festival international d'Angoulême, indirectement grâce à la MGEN. Depuis des années, la MGEN nous soutient en matière de diffusion de la BD dans le département. On achète un certain nombre de BD qu'on met à disposition des écoles. Et dans ce soutien, la MGEN valorise également, au niveau du Festival international d'Angoulême, ce qui s'appelle le concours BD à l'école. Et il s'avère que chaque année, c'est la 3e année consécutive, il y a des Lozériens qui sont primés. Et cette année, il y a une petite Lozérienne qui s'appelle Pénélope, qui sera là en fin de journée, à l'inauguration, et donc pour la remise du prix particulier, puisqu'elle a recueilli le Fauve d'Or dans sa catégorie, Fauve d'Or jeunesse, au Festival d'Angoulême. Donc comme quoi, la BD trouve sa place, y compris à Angoulême, pour les Lozériens.
Voilà, oui, un petit
dernier. Non, c'est oui, conclusion. Effectivement, la BD Angoulême, oui. Pour les Lozériens, la BD Angoulême, voilà, c'est voilà, c'est super
chaud. Je pense que tout le monde est. Oui, c'est le festival le plus connu, peut-être, au monde.
Oui, et qui a quelques petites difficultés à l'heure actuelle entre les auteurs et la nouvelle direction. Donc, pas dit ça.
Ah non, que ça perdure, on verra bien l'avenir.
Moi, j'adore Saint-Malo.
Nous, on aime bien Saint-Élémy.
Oui, là, à mon avis, déjà que c'est pas. Oui, enfin, à voir.
Mais dans une autre catégorie, cela s'entend. Ouais.
Quant à nous, on reste en direct toute la journée de demain. On va reprendre l'antenne. Alors, on va le faire à la cool. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les auteurs, autrices dédicaces. Donc, à chaque fois, on va. Voilà, il y aura des petites impros, on prendra le direct. Puis on a décroché toute la journée de demain. Donc, on va y aller à notre rythme. Hein. On est en Cévennes, on est en Lozère, on est bien à Saint-Élémy. Mais n'empêche que vers 14h45, 15h, il y aura un plateau qui sera exclusivement dédié à la place de la femme dans la bande dessinée. Quelque chose qui nous tient à cœur. On reprendra demain l'antenne, ça c'est sûr, vers 11h à peu près, pareil, avec les gagnants des différents prix du festival. Et demain, 14h45, 15h, pareil, en mode cool, la BD, l'engagement dans la BD. Comment la BD, ce n'est pas qu'un divertissement, elle sert aussi parfois à dénoncer et à dire des choses vraies. Vous êtes bien sûr Radio Bartas. Mais restez-y, on n'y est pas très mal. En tout cas, là, on fait une petite pause musicale, à mon avis, jusqu'à 14h. Et en attendant, venez à Saint-Élémy, le festival de la BD. C'est plein de sourires, plein de vie, plein de dessins et puis des auteurs, autrices qui sont absolument merveilleux. À tout à l'heure.
Merci.
Merci à vous.
Les 5 et 6 juillet à Saint-Élémy,
le festival Bulle de Burle revient.
Organisé par l'association Enimi BD,
plus de 30 auteurs et autrices seront présents pour des séances de dédicaces.
À cette occasion, Radio Bartas prend le direct tout au long du week-end.
Pour des plateaux et des rencontres autour du micro.
La 18e édition du festival Bulle de Burle,
c'est bien sur le 107FM.
Et sur radiobartas.net. We'll be right back.